Dans le podcast AWS en français, on parle de finances, plus particulièrement de paiement avec un changement d'infrastructure vers une infrastructure cloud. Tiens donc, centré autour de Kubernetes, c'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, tous les vendredis matin, vous avez l'occasion de découvrir tantôt un retour d'expérience client ou partenaire de leur voyage, de leur migration, de leur adoption du cloud et du cloud AWS en particulier. Et puis une semaine sur deux, on parle des nouveautés des deux dernières semaines, histoire de rattraper le retard quand on a loupé une nouvelle sur une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service. Ça se passe où ? Ça se passe dans vos applications de podcast, les bonnes applications, j'ai l'habitude de dire, celles d'Amazon, d'Apple, Google, il n'y a plus le podcast de Google. Vous pouvez retrouver les podcasts maintenant sur YouTube, alors sans vidéo, hein, c'est toujours un podcast audio, mais au moins vous pouvez nous écouter sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs de laisser des likes, des petites clochettes ou des petites étoiles pour booster les algorithmes de recherche, ça fait toujours bien plaisir. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans le podcast AWS en français, on va parler finance dans un monde donc régulier. On va parler d'infrastructure, on va parler de Kubernetes, une fois n'est pas coutume. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Dulon. Thibaut, tu es lead développeur architecte chez MangoPay. Dis-moi, MangoPay, c'est quoi ?
Eh ben, salut Seb, bonjour. MangoPay, c'est une plateforme de paiement principalement qui est née de Litchi historiquement. Donc Litchi, les cagnottes en ligne.
Hein. Les cagnottes, hein,
exactement. Ouais. Et de là est née l'opportunité de créer une API de paiement. Hein. Et puis, comme Litchi faisait ça assez bien, on a vu l'opportunité d'en créer quelque chose à part entière. Et donc voilà, principalement une API de paiement qu'on vend à nos différents clients. On a été pas mal spécialisé au départ sur les crowdfunding et les marketplaces.
Venant de Litchi,
c'était exactement.
L'étape normale.
C'était l'étape normale et puis voilà, maintenant on attaque des plus gros clients au fur et à mesure des années, quoi.
Ça me rappelle l'histoire d'AWS. AWS est né par un besoin interne d'Amazon d'avoir de la flexibilité. On a créé des API pour lancer des virtual machines, etc. pour les besoins internes. Et puis après, on s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être intéresser des autres. Et donc, ton histoire, l'histoire de MangoPay me rappelle l'histoire d'AWS. Je vous souhaite de grandir autant.
Je le souhaite aussi.
dans les prochaines années. Une API de paiement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai un site web où j'offre des services ou des biens à des consommateurs et qu'à la fin, ils doivent passer par la caisse, donner leur carte de crédit pour me payer, plutôt que d'implémenter le paiement moi-même, je fais appel à vos API pour implémenter le paiement, c'est ça que ça veut dire ?
Exactement. Alors, la flexibilité d'utiliser l'implémentation, d'appeler l'API vous-même, mais on a aussi, on offre des SDK pour faciliter l'implémentation de cette API. Je crois qu'on supporte 7 différents langages.
Langage. Mm-hmm.
Voilà. Et la force de MangoPay, c'est que on offre plusieurs manières de paiement. Donc, on a évidemment le paiement par carte, mais on implémente aussi PayPal, l'Irvirement SEPA, etc. Et donc, on a toute cette flexibilité et on essaye de se rapprocher à chaque fois qu'on essaye de s'implémenter dans certains pays européens. Qui ont tous leurs propres moyens de paiement.
Leur façon spéciale de faire. Oui.
Exactement, on essaye de s'adapter à eux et d'implémenter ces nouveaux moyens de paiement au fur et à mesure dans la plateforme MangoPay pour que ce soit une plateforme clé en main, quoi.
Et ça veut dire, moi, en tant que client de MangoPay, je ne dois pas me soucier de rajouter, je ne sais pas si j'adresse le marché belge, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Payconiq, là, c'est vous qui allez le faire, ce n'est pas moi, quoi.
Exactement, d'ailleurs, Payconiq fait partie des moyens de paiement qu'on supporte.
Ah ben voilà, c'était un parfait exemple. Et alors, avant de rentrer dans le détail de votre projet, de votre infrastructure cloud, je suis toujours un peu curieux de savoir ce qui se passe derrière, ça veut dire quoi faire des paiements ? Vous avez des connexions directement avec les banques, comment ça se passe derrière en back-end ?
Bien sûr, tout à fait. Donc nous, on a une licence pour gérer de la monnaie électronique. Donc une fois que le paiement arrive, on stocke de la monnaie électronique sur nos portefeuilles électroniques.
Qui sont des comptes en banque finalement, légalement parlant.
Tout à fait, comme des comptes en banque. Ils peuvent d'ailleurs être IBANisés. Hein, donc on peut avoir des IBAN sur nos wallets. Et ensuite, l'argent peut transiter d'un wallet à un autre par via de transfert. Il y a certains clients qui utilisent beaucoup cette possibilité-là. Et puis ensuite, et ben, il y a un moment, l'argent doit sortir. Et donc, c'est ce qu'on appelle le payout. Et donc, à ce moment-là, on transfère cette monnaie électronique sur des vrais comptes en banque. Et à chaque fois, on essaye d'utiliser le meilleur moyen afin que les frais de conversion soient réduits d'une monnaie à une autre, parce que on opère des transferts d'argent dans différents pays, hein, principalement dans toute l'Europe. Et donc, c'est ce genre de souci aussi qui rentre en compte lorsque le paiement sort, quoi.
Et vous avez des beaux clients sur votre site web. Je vois Pixmania, Rakuten, Vinted, Le Bon Coin. C'est du gros volume, ça.
Tout à fait. Ouais, c'est des gros volumes. Ce sont nos plus grands clients. On a récemment aussi de nouveaux clients qui arrivent dans le pipe commercial. Donc on est très content. Ça veut dire que MangoPay est en train d'acquérir une certaine légitimité au niveau européen, et ça prouve que notre produit est solide et propose quelque chose d'intéressant pour le marché. Ouais.
Alors en métrique, ça veut dire quoi d'avoir des clients comme Le Bon Coin, comme Vinted? C'est combien de paiements par jour, combien de transactions?
Alors oui, c'est intéressant. Après, en effet, chaque client a ses spécificités d'implémentation. Il y en a qui vont faire, on va dire, des batchs durant la nuit. D'autres non, ils vont étaler ça sur toute la journée. On est sur une moyenne d'à peu près 200 requêtes par seconde, mais on a souvent des pics autour de 600, 700 requêtes par seconde sur notre API, ce qui est assez raisonnable. Et en termes de nombre de paiements par seconde, en moyenne sur les horaires de journée, on est sur une vingtaine, trentaine de paiements par seconde, mais ça monte parfois à 60, 70 paiements par seconde qu'on doit processer sur notre plateforme. Donc voilà. Et on arrive à répondre assez bien à cette demande pour le moment, hein, puisque on est sur un temps de réponse moyen autour de 200, 300 millisecondes. Donc on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est probablement un des objectifs de notre sujet de conversation aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal.
Avec une saisonnalité très, très importante, évidemment. Je suppose qu'autour des fêtes de fin d'année, par exemple, il y a des boosts d'utilisation, comme pour tout ce qui est lié au commerce électronique, au commerce en général d'ailleurs, pas rien que le commerce électronique, mais le monde des paiements en particulier.
Bien sûr, la période de Noël est toujours très importante et très délicate si on veut passer des changements à cette période-là. D'ailleurs, c'est assez difficile de l'opérer puisque on préfère la continuité de notre système. Le Black Friday aussi est une et toute cette semaine autour du Black Friday sont des dates auxquelles on fait très attention puisque nos clients ont une activité un peu plus forte durant ces moments-là. Et puis il y a deux trois autres dates comme ça, pareil, la Saint-Valentin.
Voilà. Je pense à ça. il faut expliquer à nos auditeurs. Je dois expliquer à mes auditeurs qu'on enregistre les podcasts. Donc même si vous l'écoutez quelque part au mois d'avril, au mois de mai, ces podcasts sont enregistrés longtemps avant. Et on est autour de la période de Saint-Valentin. C'est pour ça que cet exemple-là nous vient tous les deux en tête.
Exactement.
Là maintenant. Pourquoi est-ce qu'on parle de votre business comme ça? Ben c'est pour mettre un peu le contexte, pour voir dans quel monde. Dans quel métier vous vivez. Et donc, ce qui permet d'amener ma prochaine question, c'est quels sont les challenges techniques imposés par votre métier? Ce métier des paiements, avec des exigences de volumétrie, de faible latence, de pics de volume à certains moments de l'année, quelles sont les contraintes que ça met sur vos infrastructures?
Eh ben, évidemment, c'est d'ailleurs des contraintes qu'on a rencontrées il y a un an et demi et qui a motivé ce choix de migration vers le cloud. On a besoin d'avoir une infrastructure qui répond rapidement. On a besoin que cette infrastructure elle évolue dans le temps. On a aussi, comme tu l'as dit juste avant, on répond à des régulations. Donc au Luxembourg, maintenant aussi en Angleterre. Et ces régulations exigent un certain niveau de sécurité. Et donc, on a besoin de pouvoir appliquer très facilement des patchs de sécurité sur l'ensemble de notre infrastructure. Et tout ça doit se faire très régulièrement puisqu'on subit des audits aléatoirement de ces régulations assez souvent. Donc voilà.
C'est intéressant ce que tu parles, parce que vous êtes une entreprise européenne, vous opérez sur plusieurs marchés, vos wallets, comme tu as dit, sont techniquement des comptes en banque, donc vous êtes sous le coup des régulations des banques, en tout cas certaines régulations des banques, celles qui sont liées au paiement. Pour opérer à Luxembourg, vous êtes sous le coup de la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. J'ai
Absolument.
Travaillé à Luxembourg, donc je connais bien, qui a des exigences très strictes, et beaucoup pensent que la CSSF dit non, vous ne pouvez pas aller dans le cloud, ce qui n'est pas vrai. Vous pouvez parfaitement aller dans le cloud si vous respectez un cahier des charges qui contient notamment du chiffrement, de l'audit, de la gestion des logs, des backups, du recovery et des choses comme ça.
Absolument, c'est ça. En fait, tout ça vient du fait qu'avant, c'était en effet pas possible ou très difficile d'opérer dans le cloud quand on répondait à ces régulations, telles que la CSSF. Mais il y a déjà plusieurs années, je crois que c'était aux alentours de 2016-2017, la CSSF a officiellement autorisé ce genre de choses en répondant, comme tu le dis, à un cahier des charges assez strict et précis. Donc c'est absolument possible et d'ailleurs on y est.
D'ailleurs, j'avais interviewé une start-up luxembourgeoise qui s'appelle Econou. Vous retrouverez, c'est l'épisode 117. Je fais semblant que c'est de tête, mais j'ai mes notes devant moi. Qui propose de l'épargne salariale, qui est également régulée par la CSSF. Alors, la CSSF, c'est pour le Luxembourg. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Il y a l'équivalent de la CSSF en Angleterre, ça s'appelle
la FCA, c'est ça.
Et là, vous avez le même genre de régulation. Vous avez pu passer de l'un à l'autre relativement facilement, ou il y a des spécificités de l'un ou de l'autre?
Alors, il y a toujours des spécificités de l'un ou de l'autre. Après, c'est vrai que le cœur est assez commun dans tous les cas. La FCA, travaille depuis le début d'année dernière tout de même. Donc, c'est des processus qui sont très longs. On l'a obtenu officiellement dans ce dernier trimestre. Donc, ça fait presque un an, on va dire, que les équipes sont sur l'obtention de cette régulation.
Cette certification,
ouais. Voilà. Et ça se passe en plusieurs rounds. Donc, ils font un premier audit, ils demandent des documents, ensuite, ils examinent ces documents et ces réponses, et ils creusent, etc. Et voilà, ça prend toujours un peu de temps, mais lorsqu'on fait les choses bien, on arrive.
Ce qui est bien pour nous consommateurs de savoir qu'il y a ces organismes-là qui surveillent quand même l'activité des entreprises, qui jouent avec notre argent. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. Je comprends la contrainte côté entreprise, mais donc le message, si vous opérez des applications qui sont qui doivent être conformes aux règles de la FCA en UK ou la CSSF au Luxembourg, c'est possible de le faire dans un cloud et sur AWS en particulier. Donc, pour les raisons que tu as citées, de disponibilité et d'agilité, vous avez décidé de migrer vers le cloud il y a un peu plus d'un an. Et typiquement, comme beaucoup de clients AWS le font, vous l'avez fait en deux parties. Une première partie lift and shift, donc je rappelle, on prend les VM quasiment tel quel, on change rien, pouf, on les redépose dans le cloud, on en profite en général pour faire un peu de nettoyage, tiens, cette VM-là, elle n'est pas utilisée, cette application-là, elle n'est plus
Exactement.
Utilisée, mais vous ne gagnez pas nécessairement en agilité et pas en coût, c'est assez cher, donc il y a une deuxième phase qui vient où on va recommencer à repenser la plateforme. Est-ce que tu peux expliquer de quoi vous veniez et où vous êtes maintenant?
Bien sûr, bien sûr. Donc, on parle de pas si longtemps que ça. Hein. C'était il y a un an et demi, on va dire, à l'été 2022. On avait deux data centers au Luxembourg qui contenaient toute notre infrastructure et tout était opéré par une équipe d'Ops qui était du coup au Luxembourg et qui gérait cette infrastructure-là. Comme je l'ai évoqué précédemment, on avait pas mal de problèmes. Donc, cette infrastructure devenait avec le temps vieillissante, puisque MongoPay, on parle quand même d'une création en 2013. Donc, aujourd'hui, ça fait
plus de 10 ans.
Plus de 10 ans, exactement. Donc, infrastructure un peu vieillissante. On arrivait à terme de certains contrats de maintenance, etc., avec nos prestataires. Et puis, on accumulait les versions majeures de retard sur certains de nos services. Bref, on était dans une situation où il fallait qu'on prenne une décision. Et donc, cette décision, ça a été d'aller vers le cloud, puisqu'on avait aussi cette appétence, cet appétit à conquérir plus de marchés, à aller s'implanter dans plus de pays. Et donc, on allait avoir besoin d'une scalabilité plus haute. Donc, on a décidé d'aller vers le cloud. Et en effet, ça a été l'opportunité de tout moderniser. Donc la première idée, c'était OK, on va tout changer, on va tout refaire propre, ça va être génial, etc. Et puis après, la réalité nous heurte en pleine face et on se dit mais ça va prendre du temps, quoi. Et du temps, on en a assez peu finalement au vu de nos deadlines, de notre infrastructure, etc. Et d'où cette stratégie en deux parties qui a été on va faire une première chose qui est le lift and shift, comme tu l'as dit. Donc on va juste tout migrer sur le cloud tel quel en faisant un petit peu de ménage et ça nous permettra au moins de créer notre landing zone sur AWS, notre organisation, notre réseau, etc. Et puis ensuite, en parallèle, on va aussi commencer cette initiative de modernisation de toute la stack technique. On va essayer de coller à l'existant sur certaines choses. Par exemple, on utilise des services de messaging, de cache, etc. On en est content et donc on voulait continuer à utiliser les mêmes, mais sur le cloud. Et puis, moderniser certaines autres choses. Par exemple, plutôt que de tourner sur des machines et des serveurs tels que 2IS, puisqu'on était sur la stack Microsoft, et ben, on s'est dit, on va tout containeriser, on va partir sur du Kubernetes. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait.
C'est marrant parce que tu mentionnes que vous étiez sur un stack, vous êtes toujours d'ailleurs sur un stack plutôt Microsoft. Pourquoi avoir choisi AWS?
Et oui, c'est vrai que c'est anecdotique. On aurait tendance à dire que si on est sur une stack un peu plus Microsoft,
Bon, on
on
va aller
aurait
chez
pu
Azure.
aller vers Azure, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est que durant cette période de décision un peu forte, qui était donc il y a un an et demi, on venait de racheter deux entreprises pour consolider l'offre de MongoPay. Donc une entreprise plutôt orientée sur la gestion du risque, où on va essayer de calculer un risque en temps réel sur les transactions et sur les utilisateurs finaux. Et une autre entreprise qui était, eux, spécialisée dans le workflow de paiement et l'automatisation des workflows de paiement. Voilà. Et ces deux entreprises-là, utilisaient déjà le cloud quand on les a rachetées et utilisaient AWS. Donc on s'est dit, si on part sur du cloud, autant bénéficier de l'expérience et de l'expertise que peuvent avoir déjà ces entreprises qu'on est en train d'acquérir, autant partir sur AWS nous-mêmes, comme ça ce sera beaucoup plus simple de collaborer.
C'est un des avantages du cloud qu'on cite peu souvent. C'est le cas de rachat, fusion, acquisition de sociétés, où avant, quand on avait des data centers traditionnels, ben c'était il y avait
Compliqué.
cet asset physique, c'était compliqué d'intégrer les équipes. Avec le cloud, bon, j'exagère un peu, mais on passe le mot de passe route à quelqu'un d'autre, et puis voilà, on passe l'infrastructure à quelqu'un d'autre également. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Comment vous avez approché cette replateformisation? C'est pas très français, parce que bon, il y a une partie de réécriture de code, mais il y a surtout un gros changement d'architecture.
Bien sûr.
Comment ça s'est passé, la planification, les étapes, etc.
Alors, il y a eu plusieurs étapes en effet. La première étape, c'était une fois que l'idée a germé et que la décision a été prise, on va faire toute une étape de discovery. Donc, qu'est-ce que AWS propose, en quoi ça peut répondre à tous nos problématiques, est-ce que ça marche comme on le souhaiterait, parce qu'il y a souvent une différence entre ce qu'on peut lire et la réalité. Donc il y a voilà, cette première phase qui a duré quelques mois de discovery dans mon équipe pour étudier la faisabilité du projet. Une fois que ça c'est fait, on a forcément besoin d'experts. On a besoin de formation et on a besoin de ressources et on avait quasiment aucun de ces trois-là. Donc on
Et
a
donc,
évidemment,
plan de formation.
exactement. Donc on a forcément été pioché dans ce qu'on avait, c'est-à-dire dans les personnes qu'on venait des entreprises qu'on venait d'acquérir pour avoir des conseils évidemment. Et puis on a aussi bénéficié du plan d'accompagnement de formation d'AWS. Donc on nous a gentiment accompagnés, on a fait un skill assessment de nos équipes qui allaient directement travailler sur cette replateformisation. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Et voilà. Et donc on a eu plusieurs mois où on travaillait toujours soit sur cette discovery, soit sur le début de l'implémentation. où on se faisait aussi en parallèle former par des formateurs AWS sur pas mal de thématiques différentes.
Et ça architecture, nous a... SysOps, DevOps, sécurité, etc.
Exactement, on a fait un peu de tout. On a fait un peu de tout, ça a duré jusqu'à, je crois que de septembre jusqu'à janvier-février de l'année qui a suivi. Et puis après cela, on a senti qu'on avait les bases suffisamment solides pour avancer correctement sur cette replatformisation. Ouais.
Alors c'est quoi ce nouveau stack technologique ?
Donc aujourd'hui, du coup, on a toutes nos applications qui tournent, donc qui sont containerisées et qui tournent sur Kubernetes. Ensuite, on a plusieurs, comme je disais, on a un service donc de messaging, un service de caching. On utilise les services managés d'AWS pour ça.
C'est-à-dire Elastic Cache.
Exactement, Elastic Cache, Amazon MQ. Pourquoi on a choisi ça ? Parce qu'on voulait, comme je disais tout à l'heure, on était content de ce qu'on utilisait dans le monde antérieur. On voulait essayer d'y coller pour minimiser les changements qu'on aurait à opérer dans le code de nos applications. Mais en même temps, on n'avait pas non plus les ressources experts pour opérer nos propres clusters qu'on déploierait par exemple sur Kubernetes aussi. Et donc, heureusement, AWS propose ces services en managé. Et donc, c'est le choix qu'on a fait.
Il y a beaucoup de clients qui font ce choix pour se focaliser sur votre expertise, votre application, et c'est pas la gestion, enfin le management des bases de données, des clusters de messagerie, des engins de recherche, etc. Vous êtes resté en .NET ou vous avez changé de langage de programmation aussi ?
On est resté en .NET. Après, comme je disais, les deux autres entreprises utilisent des langages différents, donc ça nous a permis d'essayer d'avoir une... Et on est encore sur cette approche d'être de plus en plus polyglotte, en tout cas à la Cortec, puisque la Cortec est une... C'est vrai que j'en ai très peu parlé, mais on est une équipe plateforme. Donc on travaille principalement pour les autres équipes techniques au sein de MangoPay. Et donc on essaye de proposer une plateforme qui convient à tout le monde. Donc on a principalement en effet à MangoPay des applications .NET, mais on commence aussi à recevoir des applications en Java par exemple.
En fait, ce que tu appelles Cortex, c'est ce que beaucoup de sociétés appellent aussi le Cloud Center of Excellence. Vous êtes le noyau de compétences cloud et vous mettez en place une plateforme que les autres peuvent utiliser.
Exactement, tout à fait. On essaye d'abstraire cette complexité et de proposer aux équipes l'essentiel qu'ils puissent personnaliser et tout ça qu'on ait abstrait nous, quoi.
Vous mettez en place aussi des garde-fous, des barrières pour éviter que les autres équipes partent dans tous les sens en termes de facturation, de sécurité et autres ?
Tout à fait, on reste maître de ce qu'on déploie dans le cloud en termes d'infrastructure. Donc on reste à peu près à avoir un œil vigilant sur les factures, même si c'est toujours difficile au début. Évidemment, après, on a beaucoup de communication en interne. Par exemple, on entretient une démo tous les mois où on parle des nouveautés, on parle de ce qui est disponible maintenant sur la plateforme pour les différentes squads, et on essaye d'accompagner toutes les différentes équipes techniques sur ces nouveaux changements ou sur ces nouveaux composants qu'on met en place afin qu'ils l'utilisent au mieux, quoi.
Ça veut dire que vous utilisez aussi les landing zones, control tower et autres outils organisationnels de gestion de compte ?
Tout à fait. Ça a même été un des débuts.
Un des débuts, on commence par là. Et alors, j'ai une question très naïve parce que je ne suis pas très Kubernetes. .NET sur Kubernetes, ça veut dire Windows ou Linux ? Ou les deux ?
Eh bien, ça peut être les deux. En fait, Microsoft a créé un framework qui s'appelle .NET Core il y a déjà beaucoup d'années. Et puis ce framework a évolué. Aujourd'hui, on est déjà sur la version 8, pour parler de la version LTS. Depuis cette version .NET Core du framework, on est vraiment cross-platform. Donc on peut déployer nos applications sur du Windows, sur du Linux, peu importe la distribution. Donc c'est pour ça que nos applications, elles sont toutes sur .NET Core. On gère parfois quelques versions différentes, mais voilà. Donc tout est dockerisé et aujourd'hui on déploie tout sur des machines Linux, ouais.
Côté base de données, tu as parlé cache, mais il y a du bon vieux relationnel derrière aussi. Je suppose que vous avez fait le choix d'RDS ou d'Aurora, l'un des deux. Plutôt puisque vous êtes en .NET, est-ce que vous avez fait le choix plutôt Microsoft SQL Server ou des solutions open source ?
Alors, historiquement, on était en effet plutôt sur du SQL Server. On a fait le choix principalement financier, mais aussi pour la scalabilité, de migrer petit à petit vers du Postgre. Donc toutes les nouvelles applications utilisent plutôt du Postgre, donc on va passer par Aurora. On a encore un peu de legacy qui utilise toujours du SQL Server. Dans ces cas-là, en effet, on va soit utiliser du RDS quand c'est possible, soit on va encore utiliser nos propres machines pour notre base de données monolithique qui est un peu trop grosse pour être sur du RDS pour le moment. C'est en cours de réarchitecture. Mais voilà, donc on est un peu en mode hybride pour le moment. Mais ouais,
T'as une
excuse-moi.
idée de la quantité de code qui a pu être réutilisé tel quel entre celui qui vient du lift and shift vers la nouvelle plateforme? Parce que vous l'avez coupé en container, mais le cœur métier reste le même. Donc je suppose qu'il y a une bonne partie du code qui a été inchangé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis ce mois d'août 2022, en fait, on a eu une accélération de cette volonté d'aller vers la modernisation de toutes parts dans les équipes techniques. Et donc, on parle d'il y a 1 an et demi où on parlait d'avoir un monolithe et, on va dire, 2 microservices. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de microservices et on a ce monolithe qui, petit à petit, se décompose et perd de plus en plus de responsabilités. Et du coup, je sais plus où est-ce que je voulais en venir.
C'est une technique de migration assez classique, hein. On dépèce le
C'est ça,
monolithe
exactement.
et jusqu'au moment où il perd sa substantifique moelle, toute sa substance, il n'y a plus que des microservices. Mais comment vous gérez les deux plateformes en parallèle? Parce que en prod,
Ah
pendant
oui.
plus de 6-7 mois, vous avez été sur l'ancienne plateforme, le lift and shift, le monolithe,
Bien
pendant que
sûr.
vous développiez la nouvelle. Comment ça se passe, la coexistence des deux?
En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, on va changer principalement le layer de présentation, donc c'est-à-dire le layer de l'API juste, mais tout ce qui est code métier, comme tu le disais, après tout ce qui se passe après le layer web, on va dire, lui ne change quasiment pas. Donc, on a pu réutiliser, on va dire, peut-être 95% du code qui était déjà existant.
C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire à vos clients, quand vous allez migrer, je suppose que vous allez migrer les clients un par un et pas tout d'un coup, vous allez dire maintenant vous utilisez cette API-là qui pointe vers le nouveau stack plutôt que l'ancienne. C'est un changement pour les clients, c'est comme ça que ça va se passer.
Alors, c'est encore plus difficile que ça, puisqu'on a essayé de limiter notre impact sur le client
Pour
et
les
on n'a pas
clients.
envie de proposer une nouvelle URL ou un nouveau DNS, par exemple, à nos clients, parce que ça impacterait beaucoup de changements et on sait très bien que quand on demande des changements à nos clients,
Ça prend 2 ans
ça prend
pour
très
les
longtemps. Alors, une petite anecdote, par exemple, il y a encore quelques temps, on autorisait encore le système d'authentification de Basicote, donc user mot de passe, etc. Et c'est vraiment une vieille façon de faire qu'on devrait plus, enfin qui est dépréciée au profit de OAuth, par exemple. Et donc on a initié ce projet il y a plus d'un an. Et c'est seulement il y a quelques mois qu'on a réussi à faire déprécier à tous nos clients cette méthode d'authentification. Donc ça prend du temps.
On dit souvent que quand une API est publiée dans la nature, elle est là pour toujours,
C'est
quasiment.
ça.
Enfin, c'est très dur de déprécier une API. Et donc, comment vous avez fait? Comment vous allez faire la transition entre les deux stacks?
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle une API Gateway devant notre trafic. Cette API Gateway va être chargée de s'occuper de la nouvelle système du nouveau système d'authentification, du routing sur les différentes régions qu'on par exemple on va ouvrir les UK, on a ouvert
L'Angleterre,
les
ouais.
UK en avril, donc voilà, cette API Gateway là va être celle qui fait ce mapping entre les différentes régions, etc. Et c'est pour ça qu'on arrive à garder la même URL. Et ensuite, en interne, on saura en fonction des tokens du client s'il faut qu'on le redirige vers telle ou telle région.
D'accord, donc les clients aujourd'hui tapent déjà sur cette API Gateway
Tout
là,
à fait.
c'est leur endpoint, et puis vous allez implémenter le routing, vous avez implémenté le routing à ce niveau-là, et l'authentification à ce niveau-là aussi, ce qui est assez
Absolument.
intéressant. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des méthodes d'authentification par client, par région également,
Exactement, oui.
qui sont différentes. Infrastructure as code aussi, tant qu'on est dans le cloud, autant le faire bien.
Absolument.
Alors il y a plein de choix, et je sais, on me le répète souvent, entre CDK, CloudFormation, Terraform. plateforme et autres. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous? Qu'est-ce qui marche pour vous?
Absolument. On est parti sur la replateformisation dès le début sur la volonté de faire ça as code. Donc, on est parti sur Terraform. Tout simplement parce que c'était le standard et qu'il était assez agnostique. On ne sait jamais, on se marie avec AWS, mais on ne sait jamais si un jour on veut se diversifier et être multi-cloud en fonction des opportunités et des régions dans lesquelles auxquelles on s'attaquera. Donc on est parti sur, sur Terraform, tout à fait. Ouais.
Et alors un aspect qui moi me tient à cœur, c'est l'automatisation pour les développeurs, ce qu'on appelle l'intégration continue, le déploiement continu. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà avant dans l'ancien monde data center et comment vous l'avez migré vers le cloud?
Bien sûr, on avait déjà nos pipelines d'intégration continue et de déploiement continu. C'est des choses qui évoluent dans le temps constamment et qu'on a récupéré l'ownership depuis la création de la Core Tech. Donc on arrive à proposer maintenant des templates qui généralisent l'utilisation de ces pratiques-là. Avant, c'était chaque équipe faisait un peu ce qu'elle souhaite et donc on n'avait pas de standard, etc. Aujourd'hui, avec l'apparition de ces templates-là et aussi d'avoir migré ça sur du as code, tout comme le Terraform, avant on passait par la UI directement. Aujourd'hui, on fait du as code et donc nos pipelines de CI/CD sont versionnées. Elles sont standardisées puisqu'elles sont templétisées et donc on les fait évoluer petit à petit vers les nouvelles pratiques afin que chaque ce soit transparent pour toutes les différentes squads techniques et qu'ils puissent évoluer vers ces nouvelles pratiques quasiment sans avoir à faire beaucoup de changements, quoi.
Et vous avez utilisé aussi des outils managés, je pense à Code Pipeline, Code Build, ou vous restez sur de l'infrastructure plus classique comme Jenkins par exemple?
Oui, alors en fait on a essayé encore une fois de minimiser l'impact de cette changement de plateforme, on va dire, et d'architecture, puisque ça fait énormément de changements déjà pour l'entreprise et en tout cas pour le monde technique de MongoPay. On avait aussi un défi humain important de faire adopter tous ces changements techniques-là aux différents développeurs et ingénieurs de MongoPay. Et donc, dès qu'on pouvait s'épargner de certains changements, on le faisait. Et donc, on utilisait des outils à l'époque qui ont été très facilement migrés sur des machines EC2, par exemple, sur AWS. Donc, on continue d'utiliser ces outils-là pour la CI/CD qui sont TeamCity et Octopus.
Ah ouais, TeamCity et Octopus, deux grands acteurs de ce monde CI/CD. Ça a pris combien de temps cette réécriture, cette replatformisation? On arrive à le dire, toi et moi, quasiment, sans l'accrocher.
Ça y est. écoute, c'est difficile à mettre une date de fin à tout ça parce que...
Non, oui, c'est évidemment un travail continu.
C'est ça. Mm-hmm. Je pense que voilà, là on est sur la fin, en tout cas en termes de la phase de construction. On est sur la fin de cette phase de construction, donc on peut parler d'un an et demi, puisqu'on a commencé en septembre et là on est autour du mois d'avril, donc c'est à peu près ça.
Avec une grosse phase de formation, tu as parlé 3-4 mois de training, de formation, etc. Donc tout un an et demi pour réécrire. Qu'est-ce qui se passait pendant cette année et demie avec les nouvelles fonctionnalités? C'est toujours ce que je me demande. Parce que votre monolithe, il a continué de vivre pendant un an et demi. Donc vous développiez deux fois, enfin, où les développeurs mettaient le code à deux endroits différents?
Non, on a gardé la même code base. Comme je disais, vu que le code métier ne change pas, on a gardé vraiment la même code base pour ce monolithe. Et on travaillait en parallèle, du coup, sur la réécriture du layer de présentation. Et ça passait, comme je disais, par une communication accrue entre les différents pôles techniques de MongoPay. C'est pour ça que je parle à chaque fois de défi humain, puisque il y a en effet le défi technique qui est là, mais pour ce défi technique, on a des experts qui sont là, on a les ressources côté AWS qui ont toujours supporté nos réponses, nos questions, etc. Mais il faut emmener les gens avec nous, des gens qui n'ont pas forcément fait du cloud avant ou qui en ont fait, mais sur Azure par exemple ou sur GCP. Il faut leur faire adopter une nouvelle architecture, une nouvelle infrastructure. Avec ces nouveautés, il y a forcément des problèmes qui arrivent au départ, puisque on ne fait pas forcément les choses bien dès le premier coup, et du coup il faut éviter la lassitude, etc. Donc,
Il faut tenir les gens motivés pendant un an et demi en montrant là où on veut aller. Voyez les avantages que vous aurez dans un an et demi.
Exactement.
Ta réponse m'amène une autre question. Tu dis on fait pas toujours les choses bien du premier coup et c'est normal, on apprend. Donc, si c'était à refaire maintenant que t'as un an et demi, deux ans de recul sur cette architecture, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais fait dès le départ différemment?
Ouais. Pas mal de choses. Déjà, j'aurais étendu ce plan de formation. En fait, on était parti sur, on va faire un plan de formation accru sur les personnes qui vont directement travailler sur cette replateformisation. Aujourd'hui, on paye un peu les pots cassés du fait de ne pas avoir formé dès le départ certaines personnes qui n'étaient pas directement concernées par cette initiative. Et du coup, déjà en termes de plan de formation dès le départ, j'aurais mis beaucoup plus de gens. Même si ça voudrait dire ne pas les mettre sur toutes les formations, mais peut-être sur les essentials ou des choses comme ça.
Mm-hmm. Pour avoir un vocabulaire commun, une base de compréhension commune entre les équipes.
Absolument, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on est plus en termes organisationnels. Je pense qu'on a sous-estimé grandement le challenge technique que ça représentait. Aujourd'hui, on a eu des dates assez importantes qu'on s'est compromis avec nos clients pour l'ouverture de cette nouvelle région en Angleterre. Peut-être que si on avait su l'ampleur exacte de ce projet technique, on n'aurait pas été aussi ambitieux sur certaines dates pour prendre le temps de faire les choses bien et sans pression. Voilà, après, en effet, je pense que c'est
Former plus de gens, même des gens non directement liés au projet, pour avoir un vocabulaire commun et avoir plus de gens qui comprennent ce concept cloud. Tu disais vous aviez des gens Azure ou GCP. Je me demande, enfin, une fois qu'on est dans le monde du cloud, après, c'est apprendre le langage spécifique, les spécificités, les commandes, où il faut cliquer dans la console, mais au moins les concepts de consommation à la demande sont les mêmes, mais sont partagés. C'est peut-être plus facile de démarrer avec ces gens-là. Et puis être moins, optimiste sur les dates, c'est ça?
Oui, tout à fait. Après, malheureusement, tout ce qui est technique, je pense qu'on, d'une part, on aurait du mal à l'éviter, et d'autre part, en fait, je pense que c'est sur toutes ces erreurs et tous ces problèmes qui sont arrivés durant cette migration, qui nous font apprendre et qui nous font devenir meilleurs et des meilleurs experts sur toutes ces technologies. Et donc ça, je n'effacerai pas.
Ouais. Oui, évidemment, c'est comme ça qu'on construit l'expérience, en apprenant, en se cassant les dents parfois à gauche ou à droite, sans rien de faire de très grave dans votre cas. On parle juste de délai. Donc là, vous êtes en prod, vous avez onboardé vos premiers clients à l'heure où ce podcast est diffusé. Comment vous allez faire évoluer cette plateforme? Quels sont les chantiers que tu vois pour le futur? Alors évidemment, il y a un chantier métier, le métier va continuer d'évoluer, etc. Mais techniquement, entre cette première version, qui est une première version, avec tout le bien et le mal qu'elle peut avoir, et ton idéal du futur, qu'est-ce qui va vous occuper en 2024-2025?
Et beaucoup de choses, j'en ai bien peur encore. Hein. Donc, comme je disais, on arrive à la fin de cette phase de construction. Mm-hmm. Ensuite vient cette phase de stabilisation. Donc, de stabilisation et parfois de nettoyage. Donc, maintenant que la replateformalisation est terminée et qu'on a des premiers clients qui tournent dessus, et ben, il va falloir qu'on décommissionne le lift and shift qu'on a opéré l'année dernière, par exemple. Ça va donc avoir une grosse phase de nettoyage. Il va falloir aussi passer par une période d'optimisation des coûts, puisque c'est connu que dans cette phase de construction, c'est pas ce à quoi on fait le plus attention. Maintenant que ça tourne, il va falloir qu'on se repenche dessus, puisqu'il y a beaucoup d'optimisations qu'on pourrait faire pour faire baisser un peu la facture.
Parlais avec un autre client dans un podcast qui est diffusé avant ou après ou récemment en tout cas, enfin qui est déjà enregistré, celui d'il y a deux semaines, voilà. où on parlait de la mise en place FinOps justement, c'est quelque chose que vous regardez aussi, donc il y a deux choses, il y a les big rocks, les choses immédiates sur la facture, tiens on n'a pas besoin de cette instance là, tiens celle-là elle est trop grande, on va l'enlever, tiens on a 1200 volumes EBS qu'on n'utilise pas, on va les effacer, etc, etc, ça c'est les gros leviers d'action immédiat. Et Et puis après, il y a cette mise en place d'une culture, d'une pratique de sensibilisation au coût. C'est quelque chose sur laquelle vous travaillez également?
Tout à fait, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a déjà cette phase, encore une fois, d'apprentissage. Où sont les centres de coûts sur lesquels on pourrait activer certains leviers pour baisser la facture? Et ensuite, comprendre pourquoi certains services nous coûtent aussi cher, est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Et une fois qu'on a appris de ce qu'on a fait peut-être pas assez bien, diffuser en effet la bonne pratique pour dire bah voilà là par exemple on n'avait pas besoin d'utiliser des volumes EBS, on peut avoir des containers immutables et c'est très bien. Par exemple pour la gestion des logs, c'est quelque chose qui nous est arrivé, nos containers doivent être immutables, on n'écrit pas dans des volumes dans les containers, on va scraper directement dans la sortie standard. Voilà, c'est des petites choses comme ça où on peut diffuser les pratiques. Et ensuite, voilà, on devient meilleur petit à petit, quoi.
Donc, stabiliser, enlever l'ancien code, nettoyer et optimiser pour le coût. C'est les trois gros chantiers à venir. Il y en a d'autres?
Il y en a d'autres, ouais. J'en vois au moins deux autres. Il y a une optimisation des performances. Donc, on voit déjà, selon nos premiers tests de performance, qu'elles sont un petit peu meilleures que ce qu'on avait sur notre ancienne infrastructure, en termes de temps de réponse, etc. On est certain qu'on peut aller encore plus loin, et grâce à la flexibilité du cloud, maintenant, on sait qu'on a les leviers nécessaires pour aller plus loin sur un meilleur temps de réponse, etc. Et c'est très important pour nos clients, et puis même pour séduire plus de nouveaux clients. Donc, c'est clairement un chantier pour 2024. Et puis, évidemment, maintenant qu'on est sur le cloud, on a besoin de travailler sur notre tolérance à la faute et à l'erreur, et d'aller sur une course des 4-9 de disponibilité sur l'année, donc 99,99%. Et ça, c'est un travail aussi énorme sur lequel on se positionne.
Donc là, vous êtes en multi-ESI sur une région, enfin une région pour un groupe de clients, j'ai bien compris. Il y a l'Angleterre pour les clients anglais et quelque part en Europe pour les clients européens.
Tout à fait.
Mais vous comptez aller plus loin dans cette infrastructure monorégion ou carrément aller en multirégion?
Évidemment, si on parle de long terme, sky is the limit. Hein, on a envie d'aller loin. On a des appétences. Évidemment, on aimerait aller aux États-Unis, mais c'est pas si simple puisqu'on a des gros concurrents là-bas. Donc ça se prépare. On aimerait aller en Amérique latine. On est déjà un peu partout en Europe. Donc voilà. En effet, on a cette appétence à devenir multi-région. Et donc tout ça, ça se prépare, quoi.
Le futur ne manque pas d'avenir, comme disait un chroniqueur sur France Inter il y a quelques années. Intéressante histoire de cette migration lift and shift d'abord vers le cloud et puis changement d'architecture, passage en microservice, dépeçage d'un monolithe, passage sur Kubernetes. En un an et demi, y inclut la formation des gens. C'est l'histoire de Mango. Merci Thibaut Dulon, tu es lead développeur et architecte chez MangoP. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera des nouveautés des deux dernières semaines sur AWS. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.